plusieurs foyers de tension s'observent en RDC depuis quelque temps, causant morts d'hommes et d'importants dégâts matériels. Dans le Grand Kassai, une milice réclamant du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu affronte les forces de l'ordre. Dans la province du Tanganyika, des violences opposent les pygmées aux Bantous. À Kinshasa et au Congo central, les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala font face à la police et à l'armée. Quelle lecture faire de cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Joseph Kongolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique. Docteur Odon Meya, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Oui, bonsoir docteur, bonsoir. Et Mohamed Boulé, il est député national, il est membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, également ancien vice-ministre de la défense et général à la retraite. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC est en proie depuis quelque temps à des foyers de tension où des milices, des tribus ou adeptes des mouvements politico-religieux affrontent les forces de l'ordre. Berry Franklin Lutchaka nous dresse le tableau des récents conflits qui ont dégénéré et causé mort d'hommes.
Si l'on prend le cas de la province du Tanganyika, certaines sources affirment qu'il s'agirait d'un conflit de terres qui oppose les Pygmées aux Bantous, pendant que d'autres sources estimeraient que c'est le souci d'émancipation des Pygmées qui se sentent marginalisés. Ce conflit qui perdure depuis des mois et qui tend à s'élargir à d'autres parties de la province du Tanganyika a causé la mort de plus d'une centaine de personnes, des milliers de déplacés et des dégâts matériels considérables. Dans le Grand Kassai, c'est la milice du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu qui est aux prises avec les forces de l'ordre. Pas plus tard qu'hier lundi, les affrontements ont coûté la vie à une vingtaine de personnes et plusieurs sources affirment que ces miliciens s'en prennent au symbole de l'État. Hier lundi et aujourd'hui mardi, ce sont les membres du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala qui se sont affrontés à Kinshasa avec les forces de l'ordre. Hier lundi, dans la soirée, d'après certaines sources, sur l'avenue Bosengué dans la commune de Ngiringiri, ces personnes scandaient des slogans hostiles au président de la République. Les affrontements se sont poursuivis ce mardi autour de la résidence de Nemwanda Nsemi, leader de Bundu Dia Mayala. Rappelons qu'il y a quelques semaines, d'autres affrontements à répétition ont opposé les adeptes des BDM et les forces de l'ordre à Kimpese dans la province du Congo central. À la base, un conflit interne à ce mouvement opposant le leader et son vice-président.
Merci Berry Franklin Lutchaka. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Comment vous analysez cette situation, cette floraison de foyers de tension à travers la République?
Bien, merci beaucoup Alain Héron pour m'avoir associé à ce débat. Je voudrais aussi ici saluer tous les co-débatteurs de ce soir. Je crois que la question vaut vraiment la peine d'être posée, et surtout en ce moment où pratiquement on sent que la partie qui était censée être en paix en République démocratique du Congo, particulièrement le centre et l'ouest de la République, semble être secouée maintenant par de mouvements de rébellion en quelque sorte. Je crois qu'il y a d'abord deux choses principales qu'il faut souligner d'entrée du jeu. La première chose, c'est que ce sont des phénomènes de retour, de rupture. Ce sont d'abord des phénomènes de rupture qui marquent effectivement qu'il y a une bonne partie de la population qui ne se retrouve plus dans l'État et qui se manifeste. C'est-à-dire, ils ne jouent plus le rôle traditionnel d'un sous-ensemble d'une société donnée. Et ils réclament un rôle social. C'est le cas, par exemple, de Kamuina Nsapu, qui s'en prend uniquement au symbole de l'État. Uniquement au symbole de l'État. Voyez-vous, ça montre bien que, non seulement ils ont vécu dans une société où l'État n'était pas présent, donc une société sans État, maintenant, nous sommes dans une dimension de la situation où ils vivent dans une société contre État. Parce que c'est contre l'État qui s'attaque. Voilà. Une situation de crise, une situation d'absence de l'État qui perdure, dégénère dans la situation actuelle où les gens vivent contre l'État parce que l'État est devenu pratiquement un élément qui empêche la vie normale, qui empêche la société d'évoluer correctement. Donc, dans certaines parties de la République, nous avons des tranches des populations qui vivent contre l'État, qui vivent dans une société contre l'État. Donc, eux s'érigent contre tous les symboles de l'État sur lesquels le Cameroun s'appuie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des gens qui vivent dans une situation sans État. C'est en particulier à l'Est où il y a des espaces entiers où l'État n'existe pas, où ceux qui font la loi, ceux qui perçoivent les taxes, ceux qui ont le monopole de la violence, n'est-ce pas ? Ce n'est pas l'État, ce sont des groupes armés, ce sont des milices. Donc, il y a des parties de territoire, d'énormes parties de territoire aujourd'hui, dans lesquelles l'État n'existe pas. Donc, ceux qui incarnent l'État aujourd'hui n'arrivent pas à l'incarner normalement sur l'ensemble du territoire national. Parce que l'État, c'est une construction intellectuelle.
Alors, mais comment, Joseph Kongolo, vous expliquez que, premièrement, ces foyers de tension prennent l'ampleur presque au même moment, et deuxièmement, malgré que leurs revendications sont multiples et diverses, mais finissent par prendre une connotation politique?
Ben, mais effectivement, toute revendication, dès qu'elle est mise en public, elle relève du politique. Toute revendication. Même quand ce sont des travailleurs de la MONUSCO ou de la radio Okapi, dès qu'ils se mettent sur la rue pour réclamer un droit quelconque, cette revendication relève du politique. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut dire aussi que les circonstances, le contexte politique dans lequel nous sommes actuellement, où non seulement que les autorités ont perdu leur légitimité, les institutions elles-mêmes ont perdu leur légitimité, nous sommes devenus dans une situation d'instabilité pathologique. Et cette situation d'instabilité pathologique est à la base de l'émergence de groupuscules qui s'érigent en sous-État, en quelque sorte, en sous-État. Donc, nous sommes dans une situation totalement instable, difficile. C'est pourquoi on a souhaité que la transition soit la plus courte possible. Simplement parce que c'est un moment où, justement, l'État tend à diminuer sa puissance et de cette manière, les autres, n'est-ce pas, remplacent l'État et jouent le rôle de l'État dans certaines parties du territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est-à-dire que pour un observateur attitré, il n'est pas normal que pendant ce temps, à la fin du deuxième mandat du président de la République, avec toutes les tractations politiques qu'il y a eu, tout simplement pour ne pas laisser le pouvoir à temps, donc dans les textes, dans les limites du texte, que tous ces mouvements puissent prendre l'ampleur. Donc, nous pouvons être en train d'observer, avant d'arriver à la fin de l'observation et de tirer des conclusions, qu'il doit y avoir une main noire qui est en train d'attiser l'ensemble de tous ces groupuscules, ou de toutes ces rébellions, si nous pouvons les appeler ainsi, tout simplement pour généraliser non seulement l'instabilité, généraliser l'insécurité, de manière à déclarer effectivement que voilà, la Constitution n'arrive pas à répondre aux aspirations du peuple. C'est très faux. C'est une très fausse lecture parce que je vois déjà dans des journaux des gens qui disent, qui donnent leur réflexion, disant qu'il faut passer à la 4e République. Je crois qu'ils n'ont pas plutôt raison. Ce sont des arguments totalement politiciens que nous ne pouvons pas, auxquels nous ne pouvons pas accorder crédit. Merci. En aucun cas. Si, parce qu'il ne faut pas confondre la faillite de ceux qui incarnent l'État et la faillite des textes constitutionnels.
Merci. Merci Joseph Kongolo. Docteur Odon Meya, vous êtes analyste indépendant. Comment vous expliquez cette situation qui a élu domicile en RDC depuis quelque temps avec la floraison des foyers de tension à travers la République?
Merci beaucoup à la Radio Okapi. Je salue mon co-débatteur, l'analyste indépendant, et puis celui qui est absent, le politicien. Je crois que mon co-débatteur a souligné des aspects très importants, auxquels je voulais d'ailleurs souligner. Il a parlé de la lutte des sociétés contre l'État, c'est donc la théorie de classe, où il voudrait voir que les gens s'érigent contre l'État colonial, l'État actuel qui est en place. Ils s'érigent contre le désordre de l'État. Alors que quand nous regardons bien avec Olivier Balandier, Georges Balandier plutôt, quand il parle de que l'État doit créer l'ordre, et en créant l'ordre, il lutte contre le désordre. Donc s'il y a maintenant l'ordre et le désordre, c'est que, comme l'a dit mon prédécesseur, l'État n'existe pas. Parce que si l'État existait, on ne peut pas régler un problème politique par un coup de massue militaire. Donc, la lecture que je peux faire de cette situation, je veux dire, c'est pas une lecture réductrice, comme je l'ai entendu. Pygmée, Bantou, et puis Kamenan Sapou, etc. Les moins d'insérés, et puis tout ce que j'entends à la radio ou ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est, les raisons sont ailleurs, qui ont déjà été épinglées. Et ça, c'est souvent une analyse essentialiste, déterministe, de tout ce qui se passe. On oublie, on surévalue les causes économiques, politiques et identitaires. Donc le mouvement, l'émergence des conflits des mouvements présentés dans l'introduction, je pense que cette émergence est liée au processus de mutation sociale. Je crois que mon co-débatteur l'a souligné. Et ces mutations sociales engendrent des crises multiformes. Donc il y a... Pardon ?
Allez-y, docteur, on vous suit, vous êtes en ligne.
Oui. Donc, il y a par exemple le chercheur Linda qui dit « Tout système humain dynamique et par nature conflictuel implique des logiques de position d'intérêt. » Donc, ce sont les systèmes humains, dès qu'ils sont confrontés à différents intérêts, ils doivent s'éclater. Alors, ce qui est important, c'est la manière dont la tension est gérée. Si la tension telle que nous entendons parler est gérée par la brutalité, et les autres, ils trouveront que la violence, c'est aussi un moyen d'espérance pour répondre à tout ce qui vient de brutaliser. Alors, mais on ne sous-estime pas les conflits, aussi nous donne la physionomie de notre État.
Docteur Rodon.
Un État qui est en déliquescence. Oui.
Docteur Odomea, est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème autour de la recherche des véritables causes de ces conflits? Par exemple, dans le Tanganyika, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit, on a fait plusieurs émissions à ce sujet, mais il paraît, on a l'impression que personne ne connaît les véritables motivations de ce conflit, par exemple.
Bon, les causes sont multiples. Bon, de toute façon, je n'ai pas étudié la situation de Tanganyika ni celle de Kamenan Sapou. La situation peut-être à laquelle je peux faire face, c'est la situation des réunions dans lesquelles nous avons ce groupe de BDM. Mais je peux dire quelque chose, c'est-à-dire le groupe de Tanganyika, la situation qui se passe là, c'est... d'abord un facteur, je l'ai entendu une fois un député parler, il disait que ils n'ont plus de moyens de survie. C'est-à-dire il y a des problèmes économiques. Et puis il y a aussi un moyen de reconnaissance. Parce que les Bantous ne les reconnaissent pas comme tels. Ils peuvent aller utiliser leurs femmes, ils ne se marient pas au pays. Et puis, beaucoup d'autres raisons, d'autres facteurs aussi qui sont liés à tout cela. Quant au genre de Kamenan Sapou, là, c'est, je crois, mon co-débatteur l'a souligné au début, là, c'est-à-dire, il s'érige contre les symboles de l'État. C'est, ils en ont marre. Ils en ont ras-le-bol. L'État, pour eux, fait défaut. Et tout cela, pourquoi? C'est parce que les structures de solidarité de l'ancien pays Luba de Kamenan Sapou ne répondent plus aujourd'hui. L'État qui a prétendu utiliser le chef coutumier comme ses répondants sur place n'arrive plus à soutenir la faim, la crise qui se vit au niveau du village.
Et donc,
alors, c'est le moyen pour
Docteur Meya, les causes de ces conflits sont multiples. Vous avez évoqué la question de la gestion en parlant de la faillite de l'État, comme vous l'avez dit. Peut-on dire que tous ces conflits sont mal gérés?
Ces conflits, ce que j'avais manqué de dire au début, ce qui est important, les conflits d'abord sont importants. Là, je voudrais les souligner. Les conflits sont positifs. Parce qu'il peut jouer un rôle constructif donc, dans la processus, dans le processus de gestion d'une société. Il favorise le dialogue, la participation, la négociation. Et s'ils sont mal gérés, ils deviennent destructeurs. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de canaux de dialogue, tous les canaux de dialogue sont bloqués, et les besoins de base ne sont pas satisfaits, et ils débutent aussi sur les ressentiments, et la protestation, la répression et la violence.
Merci.
Donc pour le moment, les conflits ne sont pas bien gérés.
Merci, docteur.
Donc on répond à un conflit politique et on répond avec une disproportion de la violence militaire.
Merci, docteur Doméa. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Nous avons en ligne le professeur Boniface Kabissa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous êtes criminologue, professeur. Comment vous analysez cette situation? Vous venez de suivre Dr. Odon Meya, qui est anthropologue, qui est sociologue, qui a étalé ses arguments. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Joseph Kongolo, selon laquelle il y aurait une main noire qui attise l'ensemble de ces groupuscules pour généraliser l'insécurité à travers la République?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation, mais moi je pense que l'anthropologue qui vient de passer a épinglé des problèmes réels sur le plan scientifique. Vous savez, dans notre pays, nous avons l'habitude de rejeter toujours le mal qui nous arrive sur d'autres personnes. Moi, je pense que dans une société, notre société est considérée comme une société d'extranéité, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, ce n'est pas nous, et ce n'est pas l'individu, il y a une main noire, comme si on inscrivait en négation la capacité de l'homme de réfléchir, de rejeter ou de contester. D'abord, il faut que les gens se rappellent que l'État n'est pas une organisation divine. L'État a été fabriqué par l'homme pour que l'homme ne s'auto-détruit pas. Et donc, chaque fois, d'ailleurs, vous le voyez, dans le monde, il commence à devenir une habitude où les gens cherchent à se replier sur soi. C'est-à-dire que l'ordre mis en place, à un moment donné, atteint son octet, comme disent les chimistes. Alors, à un moment donné, les gens commencent à reculer sur l'organisation et le fonctionnement de l'État. Ils mettent ça en cause. Ce n'est pas mauvais. Non, pardon, je me suis mal exprimé. Ce n'est pas extraordinaire que les gens contestent l'État. C'est naturel, parce que l'État n'est pas naturel. L'État est artificiel. Alors, qu'est-ce qui arrive dans notre pays? Dans notre pays, il y a des facteurs, comme l'anthropologue a très bien analysé les choses, il y a des facteurs endogènes à nous-mêmes. Qui fait la politique dans notre pays? 99,9%, ce sont des gens, c'est dommage dans votre émission, on ne parle pas Lingala ou Swahili, parce que j'aurais bien voulu les dire pour que vos auditeurs comprennent. Allô?
Allez-y, professeur, si vous pouvez traduire, du moins.
Oui. Donc, Nakatiambo Kanabiso Bato va faire la politique au départ, Balinga Kanabango Batute.
Alors, traduisez.
C'est ça le grand problème. C'est-à-dire que ce ne sont pas les amoureux humains qui font la politique. Ce sont les opportunistes. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ils ne vont chercher que leur position à eux. Et ils peuvent bloquer tout le monde. Ils s'en foutent complètement. Alors, parlant de ces conflits-là, ils ne sont pas tous des mêmes ordres. Il y a des conflits qui ont des facteurs local, il y a des conflits qui ont des facteurs plus ou moins élargis. Je parle de conflits locaux comme celui des des némonantémis, je ne sais pas moi comment on les appelle, qui est vraiment ridicule. Ce monsieur a été faire, moi je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais il a été faire les arrangements, j'allais dire, il a été faire l'allégeance au président de la République. Alors, je crois que en tant qu'homme politique, il aurait dû faire cette allégeance pour l'intérêt de son peuple et pas pour avoir un poste. Alors, le grand problème, c'est celui-là.
Professeur.
Je vais terminer, pardon, c'est très important ce que je veux dire. Que depuis 2001, je crois, là où l'actuel président a pris le pouvoir, ce monsieur ne fait que cohabiter avec les opposants. Il ne fait que cohabiter avec les opposants. Mais aucun opposant n'a amené une nouvelle lecture de la mise en place de l'organisation sociale. Aucun.
Professeur.
Ils viennent, ils entrent en poste. Et c'est pour ça que ceux qui restent, je finis par là, ceux qui restent pensent que les activités de violence deviennent un mode d'accession au pouvoir.
Professeur, vous venez de dire que c'est naturel que l'homme conteste l'État, mais souvent on ne voit que l'État qui fait un usage disproportionné de la force, on accuse l'État, mais cet homme qui doit contester l'État, quel canot doit-il utiliser?
Ah ben voilà, la chose dans notre pays est difficile à ce niveau-là, parce que les deux protagonistes, s'il faut ainsi les appeler, n'utilisent pas les méthodes humaines. Je parle toujours de l'humain, pas de l'État. Que ce soit du côté de ceux qui se disent représentants de l'État, que ce soit du côté de ceux qui, quoi qu'ils sont brimés, personne ne vient avec les revendications méthodologiquement humaines. Les gens, par exemple, qui détruisent les biens publics, les gens qui contestent l'État, et contestent partout, vous voyez, en Europe, dans le monde, on conteste l'État. Donc, ceux qui commandent les forces de l'ordre doivent savoir au départ que les gens qui contestent l'État ont le droit de contester l'État. Et donc, c'est pour ça que vous voyez qu'on a trouvé les arsenaux comme les matraques, comme les gaz lacrymogènes, avant d'arriver à tirer à balles réelles. Et d'ailleurs, chez les gens qui sont très bien formés, à peine on peut faire usage d'une arme réelle.
Merci, professeur Joseph Kongolo. Nous allons prendre pour vous cette réflexion.
Captain Mupenda de Kalemie dans la province du Tanganyika. Les affrontements entre différents groupes dans plusieurs coins de la RDC dénotent une complicité de certains politiciens congolais et leaders communautaires pour leurs intérêts égoïstes. Par exemple, dans la province du Tanganyika, le drame humanitaire causé par les affrontements entre les Pygmées et les Bantous dépasse tout entendement. Pouvons-nous conclure que les Pygmées et les Bantous, qui s'entretuent nuit et jour avec les flèches, lances, machettes et haches, sont forcés militaires et policiers, ou bien tous ces conflits sont seulement un fond de commerce pour certains politiciens?
Voilà, Joseph Kongolo, un fonds de commerce, vous l'avez dit, mais le professeur Kabisa, vous l'avez suivi, ne partage pas vraiment cette analyse.
Le professeur, je l'ai bien entendu, c'est un philosophe. Il fait la criminologie, c'est la psychologie du crime, et ainsi de suite, et tout ça, je le sens un peu il a donné des avis. Mais s'il faut atterrir, avoir les deux pieds sur terre, je crois que Pascal a dit des choses correctes. Je vous dis que ce même État qu'on a contesté de tout temps, il y a des contestations ordinaires que nous connaissons tous. Mais l'ampleur des contestations actuelles, les moyens utilisés actuellement, dénotent effectivement qu'il y a des mains noires. Si nous devons lier, c'est un fait social que nous devons lier au contexte politique actuel, très facilement nous savons comprendre que ceux qui n'ont pas voulu de l'alternance, ceux qui clament haut et fort chaque jour, n'est-ce pas, de changer la d'organiser le référendum pour changer la constitution. Ceux qui commencent à mettre des articles dans des journaux pour parler de la 4e République, voyez-vous, il faut mettre tout ça dans une logique pour comprendre les faits présents. Qu'est-ce qu'ils ont exploité? Dans chaque société, même dans votre maison ici, il y a des fissures, il y a des faiblesses. C'est comme ça qu'un auteur a dit que quand un morceau de cristal tombe, il s'écasse dans les erreurs de fabrication. C'est-à-dire, on sait que si vous touchez à tel endroit, vous allez détruire l'organisation, vous allez détruire la paix, vous allez détruire l'harmonie. Et ces gens-là qui pêchent dans les eaux troubles, qui veulent généraliser l'instabilité, pour dire que c'est la constitution qui ne répond pas aux aspirations du peuple, ils savent là où il faut toucher. Ils savent là où il faut toucher. Ils ont provoqué des problèmes et ils les maîtrisent. Ce sont des problèmes tous provoqués et maîtrisés, en particulier les problèmes de l'Est. Et je vous dis, peut-être avec un peu de recul historique, dans 10-15 ans, nous aurons toute la vérité sur ce qui s'est passé à l'Est. Ce ne sont pas des faits du hasard. Ce sont des gens qui se sont battus depuis 1990, vers les années 90, jusqu'à aujourd'hui, avec les mêmes armes, les mêmes tenues, les mêmes ceci et tout cela. C'est pas compréhensible non plus. Donc, nous savons que les observations sont en cours. Il n'y a rien de hasard. Il n'y a personne qui peut résister avec des armes en main pendant 10 ans, 15 ans, en train de narguer l'État à l'Est ou sur n'importe quel territoire. Nous savons tout simplement que, en politique, pour certains, pour exister, il faut créer un adversaire imaginaire. Il faut créer une rébellion quelque part. Il faut créer une instabilité, exister par rapport à ça. Et nous savons qu'ici, chez nous, ça a un terrain très fertile à toutes ces choses, et c'est ce qu'on est en train d'exploiter. Je connais des fins tacticiens dans la majorité qui font ça. Vous savez, il y a beaucoup de ceux de la majorité qui ont publié sur des choses comme ça, et nous voyons à la lettre combien ils respectent, n'est-ce pas, parfois leurs écrits. Nous l'avons dénoncé d'autres, n'est-ce pas, devant ce micro.
Alors, Joseph Kongolo, j'ai posé tout à l'heure la question au prof Boniface Kabisa, qui disait que c'est naturel que l'homme conteste l'État. Comment cet homme qui peut contester l'État devrait-il le faire? Et puis, lorsqu'il y a des gens qui viennent revendiquer avec des armes à feu, qui tuent des agents de l'État, l'État a-t-il le choix?
Il y a ce qu'on appelle les demandes sociales. Donc, chaque société... Il y a les besoins de l'homme les plus pressants. Et l'homme les exprime d'une manière ou d'une autre. L'homme n'est pas seulement là, la société n'est pas seulement là pour s'organiser, pour réclamer quelque chose. L'État, c'est lui qui exerce l'autorité, doit lire dans telle société sa demande. C'est ça le leadership. Il doit lire, il doit découvrir le besoin de l'autre. Est-ce que l'État l'a fait? Une faillite totale. Premièrement. Deuxièmement, si vous prenez tous les cas, prenons les cas de l'Est, prenons le cas de Kamouïna-Sapou. De toutes les façons, au centre, il n'y a jamais eu une rébellion d'une telle ampleur, simplement parce que nous connaissons le problème. Nous savons que Kamouïna-Sapou père a été tué dans des conditions floues, Kamouïna-Sapou fils a été tué, et ces gens ne peuvent pas accepter, n'est-ce pas, qu'on puisse tuer deux chefs coutumiers d'une même famille pour installer des gens qui n'ont pas droit au pouvoir. Ils doivent réclamer. C'est une organisation sociale. Ils doivent réclamer. Donc, nous savons que les demandes sociales qu'ils ont déposées auprès de l'État n'ont pas, et a eu pas de feedback positif. Voilà pourquoi ils se sont soulevés, parce qu'ils ont senti aussi que celui qui l'a fait n'est pas suffisamment fort comme on le croyait. Donc l'État est tombé totalement en désuétude, en faillite, dans certains coins de la République.
Merci. Docteur Odomé, analyste indépendant, il y a également pour vous cette réflexion.
Au Katanga, on a un conflit communautaire face auquel toute la communauté nationale semble démunie. Au Congo central et au Kasai, on a des conflits mal gérés qui débordent avec comme conséquence beaucoup de morts et des vies humaines perdues. Ce que nous observons, c'est que les forces de l'ordre usent toujours de la même brutalité au lieu d'utiliser l'approche consensuelle. Ne peut-on pas créer un poste de médiateur de la République pour pouvoir s'occuper de toutes ces questions avec les communautés locales au lieu d'utiliser l'armée, parce que l'intervention de l'armée crée toujours des morts et des pertes de vies humaines.
Docteur Odomé, analyste indépendant, comment vous comprenez cette proposition d'Alex Eko?
Allô?
Oui, docteur Odon. Je vous posais la question de savoir comment vous analysez cette proposition.
Alors, ici, alors je vous capte difficilement, alors je suis en même temps à la radio, je ne sais pas si vous écoutez.
Voilà, docteur Odon, je vous propose d'arrêter la radio, oui, vous pouvez suivre tout sur votre téléphone.
Oui, j'ai éteint, il pleut ici, alors je ne sais pas. Je n'arrive pas à vous comprendre sur quoi j'ai allumé la radio, là.
Ah, d'accord. Alors, il y a Alex Eko, l'auditeur de Chicapa, qui proposait tout à l'heure que la création d'un poste de médiateur de la République, quelqu'un qui pourrait aider l'État à gérer certains conflits.
L'État en soi a déjà beaucoup de moyens pour pouvoir gérer les conflits. Mais le conflit auquel nous sommes butés, c'est les conflits de quelques idéologies qui sont en place. Vous regardez bien, il y a une idéologie bouddhiste, une idéologie kabyliste, alors qui se mélange, et il y en a qui lutte contre les bouddhistes. Et aujourd'hui, ces mêmes bouddhistes qui sont désavoués, qui sont dans du côté kabyliste, alors qui joue leur jeu. Mais pour le moment, l'exemple de la CENCO a été l'exemple éloquent avec le problème de la crise, comment il faut gérer la crise aujourd'hui. Il y a moyen que l'on puisse mettre les mécanismes de dialogue pour gérer ça, tout en restituant d'abord au niveau local, des chefs coutumiers, en restituant leur pouvoir. Parce que beaucoup de chefs coutumiers n'ont plus rien à faire, et tout est géré à partir des Kinshasa. Et au niveau du village, on ne sent pas ça. L'État est très loin. Alors, quand il y a ce désordre, alors il y a des raisons pour que les gens puissent commencer à télécharger, à casser, donc ou à préjuger contre ce qui est en place. Mais la question que si les gens, les autorités en place veulent bien gérer, je pense qu'ils doivent se remettre en question, retourner leurs idées et chercher comment ils se dialoguer. Mais il ne faut pas commencer par la démesure disproportionnée des forces. Je crois que c'est dans ce sens que je peux le prononcer. Mais je ne sais pas si vous m'écoutez, parce que moi, ici,
voilà.
Je ne sais rien, et puis il n'y a que la pluie.
Voilà,
je sais pas si vous m'écoutez.
Sans problème, on vous suit 5 sur 5. Docteur Odon, mais il y a cet auditeur Crispin qui dit je crois que la psychologie sociale des Congolais est tellement surchargée qu'un petit conflit, même familial.
Excusez-moi, je vais augmenter le volume de la radio. Et je vais éteindre après, c'est juste pour écouter.
Voilà, je vous en prie, ce sont là aussi les aléas du direct. Alors, pendant que vous faites cette opération, professeur Kabisa, nous allons prendre pour vous... Je reviens à vous, docteur Odoméa. Professeur Kabisa, nous prenons pour vous cette réaction.
Victor Kibasu de Kananga. Les différents foyers de tension observés ces jours en RDC mettent en cause non seulement les efforts de la communauté internationale et la capacité de sa brigade d'intervention dont la mission principale ou le mandat est la neutralisation de tous les groupes armés négatifs sévissant en RDC. L'État congolais doit comprendre que l'activisme de ces groupes est un ras-le-bol populaire qui dépasse la capacité des forces loyalistes qui sont en train de payer injustement les lourds tributs du désordre politique.
Professeur Kabisa, comment vous réagissez à cette réflexion?
Ben, je reviens sur ce que j'avais dit tantôt. Hein. J'avais dit ceci, que le grand problème dans notre pays, c'est que les gens qui font la politique ne sont pas des gens qui aiment autrui, qui aime les autres. Parce que la condition sine qua non pour être un bon politicien est la capacité qu'on a soi-même d'aimer les gens. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité, comme on l'a dit. Et donc, lorsque on occupe les fonctions gouvernementales et qu'on déteste ses compatriotes, cet égoïsme à l'intérieur de soi-même s'exprime par ce rejet qu'on fait en écrasant les autres comme s'ils n'avaient pas de la considération. Oui, parce qu'à un moment donné, les gens qui exercent les fonctions publiques chargées de la sécurité ne sont pas des gens qui aiment des Congolais. Je suis désolé de vous le dire. Parce que lorsque on aime, hein, on utilise les méthodes qu'un père de famille utilise pour ses enfants, même s'ils sont turbulents. Donc, je n'accepte pas qu'on parte avec la grande violence pour écraser les gens au motif qu'ils se sont révoltés contre l'État. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, les compatriotes ne doivent pas s'attaquer aux forces de l'ordre. Parce que, voyez-vous, les forces de l'ordre sont des éléments qui viennent de chez nous et qu'on nous envoie pour essayer de mettre, empêcher les troubles de l'ordre public. Alors, on ne doit pas s'en prendre à eux. C'est vrai que la tendance dans le monde entier est que l'uniforme incite les gens à s'attaquer à la personne qu'il porte. Mais il faut raison garder, éduquer les gens. Je termine pour vous dire que l'absence du modèle à l'heure actuelle, parce que les Congolais, c'est un peuple très facile à gouverner, parce que les Congolais apprend par l'imitation du modèle. À l'heure actuelle, c'est ce modèle-là qui fait défaut. Et vous voyez, par exemple, lorsque un monsieur Tshisekedi meurt, eh bien, ceux qui le pleurent ne sont pas que les gens de son parti, ni les gens de son rassemblement. Même les gens de la majorité, ils pleurent, les types-là. Parce qu'il était le modèle sans être d'accord nécessairement avec ses discours, mais au moins, il était le modèle. Ce modèle-là n'existe pas parmi les acteurs politiques. Je suis désolé de vous le dire.
Professeur, alors, docteur Odomé, l'analyste indépendant, disait tout à l'heure que le conflit est par essence positif lorsqu'il joue un rôle constructif. Dans les cas qui nous concernent, comment peut-on tirer l'aspect positif de ces différents conflits? Professeur Kadissa.
Les bienfaits du crime. Alors très souvent quand j'énonce, les étudiants, ils rigolent comment les crimes peuvent avoir un bienfait. Oui, parce que les crimes, peuvent renforcer une solidarité sociale. Les gens, les voisins qui ne se parlaient pas, il suffit que la nuit, on vole dans les deux maisons pour que eux ils se parlent parce qu'ils sont unis dans le sort. Aujourd'hui, dans notre pays, nous devons revenir à la case du départ. Je répète, ça c'est la 10e fois, que nous devons aimer d'abord cette population. Que ceux qui sont au pouvoir sachent qu'ils ne sont que les travailleurs de la population. Alors, c'est la seule fois que je vois qu'un travailleur soit mieux que son patron. Le patron, c'est la population. Les gens ont oublié ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive là-bas par des moyens malhonnêtes. Mais je pense qu'il y a moyen de se ressaisir, de sorte que tous ces gens qui se battent les uns contre les autres ou qui attaquent nos forces des ordres, ils savent, vous savez, dans chaque famille ici, nous avons des militaires, nous avons des policiers. Merci. Vous n'accepterez pas que le membre de votre famille soit attaqué parce qu'il a été défendre de l'ordre public. Merci. Et donc, nous devons remettre de l'eau dans notre vin, chacun à ce qui le concerne, pour essayer...
Merci, professeur Kabissa, je vous redonne la parole. Docteur Odomea, est-ce que vous nous suivez mieux maintenant? Docteur Odomea. Allô, docteur? Voilà, visiblement, nous avons perdu Dr. Odomé, l'analyste politique. Joseph Kongolo, il y a Crispin qui dit « Je crois que la psychologie sociale des Congolais est tellement surchargée qu'un petit conflit, même familial, soit capable de se régionaliser et se nationaliser. Lorsque l'État congolais, à travers les forces de l'ordre, soit la cible de révolte en extension, n'y a-t-il pas lieu de s'interroger sur sa considération dans l'inconscient populaire ?»
Bien, c'est vrai et... je sens que ça respire vraiment la sociologie. Il a complètement raison parce que dans une société où il y a un peuple qui est dans l'incapacité de résoudre des problèmes élémentaires, c'est-à-dire les besoins sociaux élémentaires, il pose beaucoup plus de demandes politiques, n'est-ce pas, à l'État. Et si l'État n'arrive pas à répondre positivement, même partiellement, n'est-ce pas, à tous ses besoins, il y a une tension. Et quand il y a tension, la société est réputée violente. Parce qu'en ce moment-là, il suffit tout simplement des petits chocs pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des étincelles. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Mais dans le cas de la République aujourd'hui, il s'est fait fort malheureusement que partout il y a ces conflits dont nous parlons en ce moment, à la base, quand vous remontez, n'est-ce pas, tous ces conflits pour trouver les causes, vous trouvez que c'est l'État qui a créé le dysfonctionnement au sein des microcosmes sociaux. Donc l'État est la cause, n'est-ce pas, de l'ensemble des conflits, soit par son absence, par l'absence de sa présence, n'est-ce pas, au milieu, n'est-ce pas, de la société, et l'absence ou l'incompétence, son incompétence, à répondre aux besoins élémentaires et sociaux, n'est-ce pas, de la population. En ce moment-là, la société tombe en faillite, c'est-à-dire que la société tombe en faillite, et qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu quand même quelque chose de très positif par l'analyste indépendant. C'est vrai, j'ai suivi un discours de Fidel Castro qui disait que ce sont des grandes crises qui donnent parfois l'occasion de résoudre des grands problèmes. Mais qui va résoudre ces grands problèmes si l'ensemble de ceux qui incarnent l'État aujourd'hui n'ont plus la légitimité?
Et en guise de conclusion, Joseph Kongolo, quelles leçons les gouvernements devraient-ils tirer de tous ces foyers de tension?
La meilleure des choses aujourd'hui, c'est de changer le fusil d'épaule. C'est-à-dire, nous sommes à un moment où il faut un autre gouvernement. Ceux qui sont là ne savent pas ce qu'ils ont été à la base de ce qui se passe actuellement. Ils sont dans l'incapacité de mettre fin à tous ces foyers de tension. Il faut mettre un nouveau gouvernement qui va avoir une nouvelle gouvernance, de nouvelles méthodes de travail. Merci. Pour pouvoir mettre fin à l'ensemble de tous ces foyers et ainsi permettre, n'est-ce pas, au processus électoral d'atteindre, n'est-ce pas, son objectif dans la quiétude.
Docteur Odomeya, est-ce que vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Oui.
Voilà, alors l'émission va déjà toucher à sa fin, il nous reste moins de 2 minutes. Pour vous, quelles leçons les gouvernants devraient-ils tirer de toute de cette situation?
La Cour des comptes a montré qu'il y a une grande faiblesse, qu'il y a des questions de l'État. Et pour que ça puisse réussir, bon, je crois que les moyens sont mis en œuvre de la première réorganisation de l'État. Et la réorganisation de l'État passe par une élection crédible où on pourrait régler le maximum d'incertitudes. Donc, s'il y a une totalité d'incertitudes, il y aura toujours quelque part la chute dans le temps pour continuer et se retrouver de plusieurs manières.
On vous capte vraiment difficilement, docteur Odomeya, je suis désolé. Professeur Boniface Kabissa, pour vous, en guise de conclusion, quelles leçons les gouvernements devraient-ils tirer de tous ces foyers de tension?
Le gouvernement doit quitter la philosophie selon laquelle ces forces de l'ordre ont été mises en place dans notre pays. Vous savez, ces forces de l'ordre n'étaient pas mises en place pour protéger la population au départ, à l'époque coloniale. Ils ont été mis en place pour protéger les intérêts des gouvernants. Et donc, dans la population, les forces de l'ordre de notre pays sont les forces du gouvernement.
Merci.
Ils ne sont pas encore les forces de la population. Et donc, il faut, dans leur comportement, dans leur éducation, et d'ailleurs, il y a un signal qu'on appelle les briefings, lorsque vous envoyez les
policiers... Merci, professeur. Merci, professeur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.